France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
C'était une des principales revendications exprimées lors du grand débat organisé par l'exécutif suite à la crise des Gilets jaunes. Plus de justice sociale et fiscale. Sur les ronds-points déjà, il avait souvent été question d'évasion fiscale et de fraude à grande échelle au détriment des contribuables les plus modestes qui, eux, ne peuvent se soustraire à l'impôt. Bref, il était aussi question d'égalité entre les citoyens lors de cette crise née en partie de la hausse des taxes sur les carburants. Question de cohésion sociale et de consentement à l'impôt, de ce qui fonde aussi notre pacte républicain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef du gouvernement a commandé en mai dernier à la Cour des comptes un rapport sur la fraude aux prélèvements obligatoires. Ce rapport a été publié cette semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre à l'égard du gouvernement, accusé de manquer de volonté politique, pas tendre non plus à l'égard de l'administration fiscale, accusée parfois de manquer d'efficacité. Alors ce soir, on va se pencher tout d'abord sur le contenu de ce rapport, on va voir ce qu'il y aurait lieu de faire pour améliorer les choses, sachant qu'il est quand même question de dizaines de milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État, à l'heure où les services publics manquent de moyens pour fonctionner, autant dire que cela nous concerne tous. Pour en parler, à mes côtés ce soir, Frédéric Iannucci, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service du contrôle fiscal à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas tous les jours que Bercy accepte de s'exprimer publiquement sur un tel sujet. Vincent Drezet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national du syndicat Solidaire Finances Publiques, premier syndicat de cette administration. À nos côtés également, Vincent Piollet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Paradis fiscaux, enjeux géopolitiques », paru en mars dernier chez Technip. Quand on parle de fraude ou d'évasion, évidemment, la question de la coopération internationale entre les services se pose très vite. C'est pour ça que vous êtes à nos côtés également. Pour interroger nos invités, n'hésitez pas à nous appeler, sachant qu'en raison de la grève qui se poursuit à Radio France, nous ne pourrons pas prendre vos appels à l'antenne, mais on relaiera vos questions et je les poserai à nos invités. Je m'y engage.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pas d'appel donc que nous pouvons relayer sur cette antenne, mais une question de Laurence, de Nantes, qui va nous permettre de bien rentrer dans ce sujet d'entrée de jeu. Elle nous demande pourquoi ne pas plutôt aller regarder du côté des truands qui ne payent pas pour l'intérêt général en faisant de l'évasion fiscale plutôt que de diviser les Français sur des primes dérisoires. On a résumé dans cette question de Laurence, cette question de la justice fiscale qui a été posée au moment de la crise des Gilets jaunes. Qui souhaite réagir, Frédéric Iannucci, chef du service du contrôle fiscal à Bercy.
Que Laurence se rassure, il y a des milliers d'agents de la DGFiP dont c'est le métier au quotidien, qui sont motivés, compétents, qui ont un engagement professionnel de tous les instants pour justement traquer la fraude. Donc je ne voudrais surtout pas que les auditeurs aient l'impression que rien n'est fait dans ce domaine. Il y a toujours des choses à améliorer, mais voilà, il y a un engagement de milliers de personnes dont Vincent Drezet connaît la compétence et le professionnalisme.
Vincent Drezet, cette question
sur la compétence,
des petits contre les gros, oui.
Je partage pleinement ce que dit Laurence. Il y a deux choses. En réalité, il y a la question de la répartition des richesses, pour aborder notamment la question du pouvoir d'achat, des inégalités au sens large, et la façon dont la fiscalité et la fraude fiscale, notamment, accroît ces inégalités-là. Ça a été assez démontré, notamment sur le type d'agents économiques qui fraudent et ce en quoi ça alimente les inégalités. Donc ce ras-le-bol, en réalité, qui est un ras-le-bol des injustices fiscales, il se traduit là. Ce qu'on peut dire, notamment, ça fera le lien avec le rapport de la Cour des comptes, c'est que les agents de Bercy qui travaillent énormément, ils sont attachés à leur mission. Le problème, c'est que, premièrement, la fraude s'est développée, elle s'est complexifiée. Ils sont relativement en plein désarroi, j'allais dire, devant cette évolution de la fraude, à la fois parce qu'ils sont moins nombreux, objectivement il y a une question des effectifs qu'on ne peut plus éluder, aussi parce que la communauté internationale a pris du retard, jusqu'en 2008 il s'est pas fait grand chose, alors que la fraude a beaucoup évolué. Bref, avec le temps tout cela s'est vu de la part de l'opinion qui ne peut plus tolérer ça, parce que encore une fois les conditions de vie, les conditions de travail, les rémunérations, bref tout cela n'a pas suivi. Donc on a une question qui a beaucoup de sens, et l'appel de la Cour des comptes, on pourra ensuite le disséquer, de la Cour des comptes, que je dis appel, parce qu'il appelle une forte impulsion politique. Et en réalité, tout vient de là. L'administration, elle s'encadre, son action est encadrée par les moyens que lui donne l'action publique, par l'impulsion que donne l'action politique. Donc c'est d'abord une question politique et ensuite, évidemment, d'organisation administrative, on est en plein dans le sujet.
On va y revenir dans un instant, je voudrais avoir la réaction de Vincent Piollet sur ce que dit Laurence à Nantes, sur cette question de l'évasion fiscale. Il y a des choses qui sont faites quand même depuis une dizaine d'années, en fait, sans rentrer dans le détail tout de suite.
Oui, bien sûr, il faut juste reconsidérer aussi quelque chose de plus large, qui est notamment quelle est l'image
l'image qu'on se fait de la criminalité en col blanc. Donc la criminalité en col blanc, c'est-à-dire ce qui n'est pas de droit commun, ce n'est pas des faits de violence, c'est-à-dire donc la fraude fiscale, ça va être les cadres en fait qui vont frauder, les grandes entreprises qui vont pas payer leurs impôts, etc. La considération, enfin le pouvoir politique, comment il souhaite punir et mettre au banc ces personnes qui fraudent. On est dans des situations où il y a un grand décalage entre la perception, ce que veut l'opinion publique, c'est-à-dire des condamnations fermes, fortes, exemplaires, et ce qui se passe ensuite dans les faits. Et souvent, c'est ce qui va générer une certaine tension. Par exemple, quand on voit que pratiquement personne ne va en prison pour ce genre de fait, ou quand on pourra en parler plus tard, les entreprises arrivent à échapper à la justice par certains mécanismes, des mécanismes tout à fait légaux, dont certains qui ont été votés via la loi Sapin 2 notamment, ça va beaucoup créer de tensions parmi le public, où quelqu'un qui va frauder sur des millions va parfois mieux s'en tirer que quelqu'un qui va voler une mobylette, par exemple.
Voilà, ce sentiment d'injustice. Alors, le rapport de la Cour des comptes, il concerne la fraude au prélèvement obligatoire. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par là? La Cour des comptes, le premier constat qu'elle fait, c'est qu'on n'arrive pas, elle ne donne pas de chiffres. Elle ne dit pas à combien s'élève la fraude. Qui veut réagir? Vincent Drezet.
Déjà, il faut définir les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est d'un côté les prélèvements sociaux, les cotisations sociale, la contribution sociale généralisée, et de l'autre, les prélèvements fiscaux, les impôts d'État, les impôts locaux. Il faut noter que la Cour des comptes a eu très peu de temps pour essayer d'établir un chiffrage. Comme la Cour des comptes est attachée à livrer des chiffres précis, ils n'ont tout simplement pas pu le faire. Pour plusieurs raisons, déjà, il a fallu déterminer un périmètre, parce qu'une fois qu'on dit fraude, il faut encore définir le périmètre de ce qu'on évalue. Pour notre part, on avait procédé à une évaluation qui était de dire que c'est le non-respect du droit fiscal. Derrière la notion de non-respect, il y a parfois des irrégularités, il y a aussi de la grande fraude, mais il faut bien déterminer un périmètre. Donc ça a pris déjà du temps de déterminer le périmètre. Ensuite, il y a les méthodes. Il y a deux méthodes, deux grandes familles de méthodes pour évaluer la fraude au prélèvement obligatoire. Soit on utilise les données du contrôle, soit on utilise des données macroéconomiques. Et puis ensuite, eh bien, une fois que ce débat a été mené, il a fallu procéder à des travaux. Et donc la Cour des comptes est arrivée à évaluer une perte en matière de TVA. Juste pour.
C'est la seule chose qu'elle
chiffre. C'est la seule chose, hein, s'agissant de la fiscalité. Et elle a évalué une fourchette très large s'agissant des prélèvements sociaux. Alors après, elle appelle à ce que ces travaux se poursuivent. Donc ça serait effectivement très bien pour éclairer le débat public et aussi pour voir comment la fraude évolue. Parce qu'un des enseignements du rapport, c'est que la fraude simple demeure importante, mais que la fraude se diversifie et se complexifie. Et que par ailleurs, les frontières entre la fraude, c'est-à-dire le non-respect du droit, d'une part, mais l'optimisation fiscale, parfois très complexe, est très poreuse, hein, c'est son terme. Elle est poreuse, ça veut dire qu'il y a un problème aussi législatif, il faut prévenir cette fraude-là. Donc, il faudra donner une suite à ce rapport, tant sur le terrain législatif que sur le terrain du contrôle fiscal. Probablement également améliorer les méthodes d'estimation. On estime, nous,
ce non-respect du droit fiscal. Et on parlera de votre estimation de...
Oui, mais il faudra le faire, parce qu'effectivement, c'est important que les pouvoirs publics, absolument, maintenant, se mouillent, si j'ose dire, et disent effectivement où on en est.
Alors, donc la Cour des comptes dit bien que l'administration fiscale ne procède pas à cette évaluation. Frédéric Iannucci, ça ne fait pas partie de votre feuille de route. Ce n'est pas demandé pour l'instant à l'administration fiscale, ça, si j'ai bien compris.
Je confirme que jusqu'à présent, effectivement, nous n'avons pas déployé des moyens pour essayer d'évaluer ce que nous ne voyons pas. Donc c'est un exercice qui est difficile. Le rapport de la Cour des comptes souligne l'extrême difficulté de l'exercice, la fragilité des chiffres, hein, d'ailleurs, qui sont issus de cet exercice. Parce que sur la TVA, il y a d'autres estimations qui ont été faites par la Commission de l'Union européenne, par exemple, hein, avec les mêmes méthodes pour tous les pays, avec des résultats plus favorables pour la France que l'estimation.
Arrêtons-nous, puisque vous en parlez un instant. Sur la TVA, la Cour des comptes évalue à environ une quinzaine de milliards d'euros le manque à gagner pour les caisses de l'État. Ça vous paraît, vous qui êtes responsable du contrôle fiscal à Bercy, ça vous paraît un ordre de grandeur acceptable?
Je ne vous prononcerai pas sur ce chiffre. Je vous dis, dans le paysage, effectivement, il y a maintenant ces 15 milliards d'euros. Il y a les 12 milliards qu'indique la Commission de l'Union européenne, qui, elle, estime que la France est en progrès par rapport aux années précédentes, qui nous situe dans une moyenne très favorable par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Donc voilà, on voit l'extrême fragilité de cet exercice, dont la Cour essaye de souligner l'utilité. Mais c'est très important aussi de préciser les termes. Le contrôle fiscal, c'est la vraie fraude avec un élément intentionnel et c'est aussi des corrections d'erreurs. Et c'est très difficile de séparer ces deux éléments dans le chiffrage. Donc on a des estimations qui attrapent enfin, qui ratisse assez large.
Vincent Drezet, sur la TVA, vous l'évaluez, l'évaluation de votre syndicat Solidaires Finances Publiques, c'est aussi à peu près cet ordre de grandeur, 15 milliards d'euros par an?
C'est nécessairement une fourchette. Il faut rappeler que la TVA, c'est 160 milliards d'euros de recettes. Donc ça voudrait dire qu'avec une quinzaine de milliards, nous on est sur plutôt 15 à 19, hein, de manque à gagner global, on serait aux alentours de 10% des recettes de la TVA. Ce qui est objectivement quelque chose qu'on peut rencontrer dans d'autres pays, parce qu'il faut aussi préciser que les méthodes qui ont été employées, qu'elles soient des méthodes, comme on dit, ascendantes, c'est-à-dire à partir des résultats du contrôle, ou descendantes à partir des résultats macroéconomiques, ont été menées parfois dans d'autres pays, et situent la France, ben malheureusement, j'allais dire dans une honnête moyenne, mais on n'est ni le pays où on fraude le plus, ni celui où on fraude le moins. Donc ça, c'est un point. Sur la TVA, nous, on était plutôt sur 15 à 19, pour plusieurs raisons. C'est qu'on a notamment aussi examiné la façon dont, si on rentre un peu dans la technique, les crédits de TVA étaient remboursés et fraudés. Parce que vous pouvez de temps en temps vous trouver dans une situation où l'État vous doit un remboursement de crédit de TVA. Et on sait qu'il y a pas mal de fraudes là-dessus. Donc on avait essayé d'examiner un certain nombre de choses. Et à l'époque on avait fait cette estimation, la TVA était estimée au niveau de l'Union européenne, la perte était estimée aux alentours de 30 milliards d'euros. Donc nous-mêmes, nous étions légèrement dessous de ce que la Commission européenne disait. C'est la preuve qu'on n'a pas forcément exagéré ces données-là.
Vincent Piollet, vous confirmez qu'effectivement d'autres pays sont concernés par ce type de fraude.
En fait, ce qui est assez intéressant, que ce soit la fraude ou la TVA, parce que je pense qu'on va parler de chiffres, j'imagine, avec le rapport de la Cour des comptes, c'est que quand on regarde un petit peu, suite au rapport de la Cour des comptes, les articles qui sont parus, on tombe dans des considérations, des débats techniques, c'est très difficile, on n'y arrive pas, etc. Alors que j'ose imaginer que si certains pays y arrivent, la France peut y arriver. C'est juste qu'on est face à un problème politique. Si on donne ce chiffre, c'est très difficile après d'expliquer aux gens qu'on n'arrive pas à récupérer cet argent. Le chiffre, quel est-il? Il y a des chercheurs qui le placent. Mais c'est toujours mieux que l'État ou l'administration ne puisse pas donner de chiffres et puisse ensuite après taper notamment sur les chiffres de l'organisation de Monsieur Drezet en leur disant « mais vos chiffres sont faux, c'est pas bon », mais en n'avançant jamais de chiffres. Et après, on va avoir le débat sur « c'est très technique, c'est très difficile ». Là encore, c'est un faux débat. On peut avoir ces chiffres-là, c'est juste une histoire d'organisation, une histoire de volonté de politique, une histoire de moyens. Déjà, l'Assemblée nationale avait un rapport d'information en 2013 qui pointait déjà cette absence de données statistiques. Et après, si vraiment on veut connaître les chiffres, il y a des chercheurs universitaires qui se penchent là-dessus, sur des données plutôt macroéconomiques, notamment Gabriel Zucman, qui est un chercheur, même au niveau mondial, qui produit des chiffres qui sont pratiquement très peu contestés sur sa méthodologie, et on arrive sur des chiffres où on a à peu près les grandes marges de manœuvre. On est sur du 40 milliards sur de manque à gagner par année. Le problème, c'est que le pouvoir politique, l'État, le gouvernement ne veut pas mettre un tampon, on va dire, sur ce chiffre pour valider et pour pouvoir nommer son objet de lutte, pour pouvoir accompagner des résultats, dire voilà, on a récupéré tant sur ce manque à gagner.
Pourquoi est-ce qu'il ferait ça, Frédéric?
Il y a une certaine prudence, effectivement, des gouvernements, parce que les chiffres sont quand même très fragiles. Quand on décortique les méthodes de chiffrage, il y a des tas de biais. Alors les statisticiens expliqueraient ça mieux que moi. Mais in fine, on a des chiffres qui ne sont pas d'une fiabilité absolue. Donc c'est très difficile, effectivement, de s'engager sur un chiffre précis. Donc on est plutôt sur des fourchettes, des évaluations, avec des méthodes qui peuvent être très différentes. Les pays qui chiffrent la fraude fiscale aboutissent à des résultats très très différents d'un pays à l'autre. Ça varie du simple au double. Donc après, voilà, quel est le chiffre pertinent? Et il y a un travail à profondeur à effectuer.
Vincent Drezet.
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les méthodes évoluent. Elles ne sont pas parfaites par nature. La fraude, notamment si on parle des paradis fiscaux, il y a ce qu'on appelle une base imposable qui nous échappe, qu'on a du mal à évaluer. Mais elle progresse, effectivement. Gabriel Zucman a beaucoup travaillé sur ces questions. Le CEPI également en France, il y a maintenant des organismes qui s'y mettent, j'allais dire. Une référence également au niveau de l'Union européenne, l'Université de Londres a produit plusieurs évaluations à partir de données macroéconomiques, reprises par la Commission européenne, donc on peut imaginer qu'elles sont en tout cas suffisamment sérieuses et crédibles dans leur méthode, et situent la fraude au prélèvement obligatoire en Europe à plus de 800 milliards d'euros. Si on tient compte du poids de l'économie française dans l'Union européenne, ça nous donne aux environs de 115 milliards d'euros, c'est-à-dire un ordre de grandeur de l'addition, si j'ose dire, de notre estimation et de celle de la Cour des comptes s'agissant des prélèvements sociaux. Alors après, à l'euro près, c'est évidemment impossible. Ce qui est important, c'est définir une méthode, parce que j'allais dire que quel que soit le chiffre que donne cette méthode-là, si cette méthode perdure, alors on pourra avoir une petite idée de l'évolution. C'est comme dans les bases statistiques, où on essaie de ne pas changer de base. Déjà ça, avant de s'écharper sur le chiffre, c'est 40, c'est 80, c'est 120, déjà qu'on ait une base de données, une méthode qui puisse évaluer donc le manque à gagner, mais également la structure de la fraude fiscale. Parce que ce qui est inquiétant dans ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est que la fraude fiscale a évolué. Non seulement la fraude fiscale, mais aussi des mécanismes liés à l'optimisation agressive. Là, on déborde du champ de la fraude proprement dit, mais au sens large, l'évitement de l'impôt s'est plutôt développé pour plusieurs raisons. Le numérique, la concentration des richesses, la financiarisation, la déréglementation. C'est aussi ça qu'il faut appréhender pour, comme le dit la Cour, prévenir la fraude.
Lapsus.
Et la réprimer.
Mais pourquoi est-ce que l'État aurait des réticences à faire ce genre d'évaluation et à prendre les choses en main quand on sait à quel point on est en train de racler les fonds de tiroir pour faire fonctionner les services publics dans ce pays? Quel est l'intérêt, Vincent
Brezé? C'est effectivement une des raisons. Souvent, ce qu'on nous a dit à Bercy depuis des années, c'est que c'est très difficile. Ça, on partage. Et puis, il y avait aussi peut-être l'idée qu'il ne fallait pas afficher trop nos faiblesses. Et nous, on disait, mais on n'affiche pas des faiblesses parce que ce que produit le contrôle fiscal en termes de résultats, parce qu'on a quand même 10 000 agents qui travaillent dans le contrôle fiscal, ça serait, si on s'en réfère à notre estimation, 15 à 20% de la fraude estimée. Ce qui est un taux d'élucidation record par rapport à toutes les infractions de droit commun qu'on peut avoir par ailleurs. Donc nous, on dit, il ne s'agit pas de dire qu'on travaille mal, il s'agit de dire que la fraude se développe et qu'il faut travailler mieux.
Frédéric Iannucci, dans le rapport de la Cour des comptes, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, on régresse en matière de résultats, c'est-à-dire qu'on récupère depuis quelques années moins d'argent qu'auparavant par le biais des contrôles. Comment ça se fait, ça?
Alors, c'est une conclusion qui me semble un peu
hâtive. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Il y a forcément des variations d'une année sur l'autre, sur les résultats. Il y a des dossiers exceptionnels qui, une année, font augmenter les chiffres, qu'on ne retrouve pas l'année suivante. On a une tendance sur les dernières années qui est à peu près stable. Donc je ne partage pas tout à fait le constat qu'il y aurait une chute des résultats du contrôle fiscal. C'est assez compliqué aussi d'analyser les chiffres. Il faut savoir ce qu'on prend en compte. Pour faire simple, à l'issue d'un contrôle, il y a la facture qu'on présente au contribuable. Mais c'est pas forcément la somme qu'il paye in fine, parce qu'il a des voies de recours derrière, il peut faire valoir d'autres arguments. Donc la comparaison des chiffres est un sujet aussi assez technique, et je n'ai pas l'impression qu'on soit à la traîne par rapport aux autres pays européens.
France Inter, le téléphone sonne.
Alors je vais me faire porte-parole d'Evelyne, qui est à Dijon et qui a appelé le standard de France Inter. Elle parle, elle nous dit: on a baissé les effectifs humains des services de lutte contre la fraude fiscale et de répression des fraudes sous couvert de choix économiques. Ceux-ci sont des choix politiques. C'est ce que nous dit Evelyne de Dijon. Vincent Drezé, j'imagine que
je comprends totalement cette question.
Son point de vue.
Je comprends cette question. Effectivement, au sein de la Direction générale des finances publiques, il y a beaucoup de métiers, dont le contrôle fiscal. Et au sein du contrôle fiscal, nous estimons que les effectifs du contrôle fiscal ont baissé de 3000 depuis le milieu des années 2000. Avec certitude, ils ont baissé de 1733 entre 2012 et 2016. C'est même la Cour des comptes qui le dit. Alors, voyez, on cite beaucoup la Cour des comptes. Elle aime les chiffres précis. Il y en a un. Le problème, c'est que les agents du contrôle font de la recherche. C'est-à-dire, ils recherchent, ils essaient de débusquer la fraude, y compris avec une coopération avec les autorités judiciaires ou policières. Ils font de la programmation. C'est-à-dire que c'est eux qui détectent par les anomalies les dossiers qu'on va envoyer au contrôle. Et puis, ils font du contrôle, soit du bureau, soit sur place. Donc, c'est intéressant d'avoir tout ce panel-là. Et ils sont environ 10 000. 10 000, et ils ont donc baissé. Ça veut dire que les contrôles, et ça, pour le coup, ces statistiques sont moins nombreux, notamment les contrôles sur place. Et par conséquent, les résultats le sont. Ce qui ne veut pas dire que le redressement fiscal moyen est mauvais. Au contraire, il a eu plutôt tendance à augmenter. Mais à partir du moment où on a moins de contrôle dans un tissu économique qui se développe, eh bien malheureusement, on n'arrive pas à appréhender toutes les formes de fraude. Derrière cela, ce qu'il faut voir, c'est que depuis des années, effectivement, Bercy est souvent montré en exemple en disant il faut supprimer les emplois à Bercy, ça depuis le début des années 2000, quelle que soit la couleur du gouvernement, et ça tombe fréquemment sur la DGFiP. Alors, la stratégie qui a été mise en œuvre a été de dire mais on va développer notamment le numérique, etc. Et on n'est pas contre le numérique, bien sûr, c'est important, mais pour que le numérique fonctionne, il faut des bases de données fiables et il faut pouvoir avoir aussi des agents pour exploiter ce que le numérique sort en termes de listes. Donc on a un gros débat en ce moment avec Bercy sur ces questions-là, mais aussi avec le gouvernement ce sont d'abord les gouvernements, encore une fois, et le Parlement qui votent les moyens alloués à la DGFiP, et ces moyens baissent.
Et Frédéric Iannucci, vous qui dirigez le service du contrôle fiscal, vous aimeriez bien avoir plus de moyens, plus de personnel ?
Alors, moi, je voudrais préciser que si on lit bien le rapport de la Cour des comptes, il est indiqué qu'avec un nombre inférieur de vérificateurs, le Royaume-Uni ferait deux fois mieux que la France en termes de contrôle fiscal. Avec un nombre trois fois supérieur en réalité de vérificateurs, l'Allemagne aussi aurait des résultats qui ne sont pas trois fois supérieurs à ceux de la France. Donc on est tout à fait conscient de l'importance du nombre de vérificateurs, de leur qualité, mais c'est pas le seul élément d'efficacité. Il faut développer des outils juridiques, utiliser de nouvelles technologies, comme le font d'ailleurs les autres pays. Et c'est la voie dans laquelle on s'engage. Il faut savoir où chercher, cibler les dossiers, justement à partir d'une analyse de données qui sont maintenant de plus en plus nombreuses.
Vincent Drezet, vous êtes d'accord ?
Il faut une stratégie sur tous les fronts. Bien sûr, il faut utiliser le numérique. Il faut effectivement améliorer la législation fiscale. On pourrait parler notamment du numérique, mais pas simplement. Et d'ailleurs, un des enseignements de la Cour, c'est aussi de tirer les enseignements de l'outil législatif au sens large, c'est-à-dire voir quels sont les risques de fraude dans les dispositions législatives qui sont votées. Il faut effectivement développer au quotidien, peut-être en revoyant le management, l'expertise, la formation. Au bout du bout, il faudra aussi renforcer les moyens humains.
Vincent Piollet, vous nous disiez tout à l'heure que certains pays avaient eu des résultats vraiment probants. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mis des moyens humains ou pas ?
En fait, l'aspect moyens humains est important. Il y a aussi le système judiciaire qui est assez différent. Par exemple, si on prend un exemple assez connu, les États-Unis, ils vont très peu tolérer, même pas du tout tolérer, des fraudeurs fiscaux sur citoyens américains sur leur territoire. Où là, on va avoir des peines de prison, une stigmatisation forte, des médias, une pression médiatique. C'est quelque chose qui passe très mal. C'est ce que je disais au début sur la perception de la criminalité en col blanc. Par contre, quand ça peut lui être profitable, notamment en ne permettant pas des accords d'échange automatique sur les données bancaires, alors que tout le monde le fait, l'Union européenne le fait, énormément de pays le font, eux le bloquent parce que ça leur permet aussi d'attirer certains capitaux chez eux. Ils veulent bien que les fraudeurs viennent chez eux, que ce soit au Delaware, au Wyoming, etc. Mais ils sont très forts pour traquer leurs citoyens et même si vous n'êtes pas fraudeur, mais si vous êtes juste citoyen américain par une ascendance, etc., ils vont vous retrouver, même si vous êtes en France depuis, il suffit d'avoir un passeport, ils vous retrouveront. Il faut déclarer les comptes bancaires, vous pouvez pas du tout passer au travers. Donc c'est aussi une problématique de moyens. Bon, après, sur les effectifs, là, je laisse mes collègues
en parler. Mais sur cette question, effectivement, de cette mentalité par rapport à la fraude, est-ce que les choses ont évolué en France ? Parce qu'on avait quand même un petit côté pas vu, pas pris, je fraude le fisc, je suis assez fier de mon coup. Ça change, Frédéric Iannucci, dans la mentalité française ou pas ?
Il y a eu des changements considérables, enfin, au niveau international et au niveau national. Le législateur a constamment renforcé les sanctions contre la fraude fiscale. La justice prononce de plus en plus de peines de prison ferme. Des exemples qui défrayent la chronique.
Patrick Balkany, vous allez me dire.
Des élus locaux en région parisienne.
C'est même un contre-exemple.
On a des peines de prison ferme maintenant. Moi, je me prononcerai pas sur l'action de la justice. C'est pas mon domaine. Mais il y a une prise de conscience collective. Et quand vous regardez les peines dans le code pénal pour fraude fiscale, c'est un délit qui est considéré comme grave.
Vincent Drezet, sur l'évolution des mentalités.
Bien, je pense que chacun peut s'accorder à dire que, notamment depuis 2008, les choses ont changé pour deux raisons. La crise qui a induit les politiques de rigueur avec l'impact qu'on sait sur les rémunérations, les conditions de travail et aussi, bien sûr, sur la désertification des services publics, on va l'appeler comme ça, notamment milieu rural. Et ça, on a vu le résultat avec les gilets jaunes. Et puis, par ailleurs, la succession d'affaires. Alors, parfois, on a un peu tout mélangé, des affaires d'optimisation et de fraude fiscale. En tout cas, la succession d'affaires qui touchait à l'évitement de l'impôt. Et tout d'un coup, moment où d'ailleurs sortait un certain nombre d'études, je pense à celle de Piketty sur l'augmentation des inégalités, tout d'un coup le lien était fait entre je paye plus d'impôts, mais certains fraudent ou se débrouillent pour optimiser, et j'ai moins de services publics. Et c'est une des raisons profondes du mécontentement qui s'exprimait au travers des Gilets jaunes, mais qu'en réalité on voyait venir depuis longtemps. Quand on regarde depuis une dizaine d'années les enquêtes d'opinion sur la relation des Français à l'impôt, les choses se dégradent. Il y avait des signaux déjà, c'est-à-dire que le consentement à l'impôt s'affaiblit et ça a participé de l'affaiblissement du consentement à l'impôt. Donc dans la demande globale de justice fiscale, il y a effectivement avoir des impôts mieux répartis, plus utiles en termes de financement des services publics et le combat contre la fraude fiscale avec deux dimensions, la répression pénale mais aussi le recouvrement qu'il ne faut pas oublier parce que c'est ce qui alimente les caisses de l'État.
Alors je voudrais juste vous livrer la question d'Isabelle Bruxelles à Lyon. C'est sur l'optimisation fiscale. Pourquoi dans les grandes banques et dans des boutiques, il y a des agences de conseil en défiscalisation? Ça permet aux gens d'esquiver l'impôt de manière complètement acceptée. C'est légal, mais ce n'est pas toujours moral. Frédéric Iannucci, qu'en dites-vous?
C'est la grande distinction entre ce qui est légal et illégal, avec des frontières qui ne sont pas évidentes à tracer.
Enfin, il y a des armées d'avocats fiscalistes qui travaillent à ça.
On est dans un état de droit, il y a des règles juridiques françaises, européennes, une liberté de circulation. Donc autant en droit interne, sur le territoire national, on a des moyens d'action importants, autant c'est un peu plus compliqué à l'international, bien que les progrès aient été considérables depuis une dizaine d'années en termes d'échange d'informations, d'actions coordonnées avec les autres pays. Voilà, mais la frontière sera toujours délicate à tracer entre ce qui est de l'optimisation et de la fraude. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais c'est un sujet qu'on est loin d'épuiser. Je voulais juste ajouter quand même, dans ce qui a beaucoup changé, c'est le renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la justice. On travaille maintenant sur les dossiers de fraude, vraiment dans la main, de manière concomitante et avec des résultats qui commencent à être visibles. La justice a des nouveaux instruments, des conventions en matière pénale qui permettent de récolter des amendes très très élevées pour des sujets fiscaux.
Au niveau de l'arsenal législatif, je vous pose la question à tous les trois, je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'on a les outils nécessaires en France? Est-ce que c'est un problème de loi ou pas du tout? Vincent Piollet, peut-être?
Justement, sur les instruments, enfin, en termes de loi, sur les peines, les textes existent, ils sont là pour condamner fermement. Mais quand je vous parlais encore une fois de la perception et de l'application de ces peines, quand vous avez des signaux qui sont en fait totalement contradictoires. Vous avez eu la loi Sapin 2 qui a permis la mise en place de la convention judiciaire d'intérêt public. En gros, c'est un espèce de plaidé coupable et encore moindre parce qu'ils sont pas coupables à la fin. Vous payez une amende et vous passez pas par la case procès. À partir du moment où il y a eu ce mécanisme qui s'est mis en place, on a eu HSBC qui avait été accusé de dissimuler des avoirs de citoyens pour plusieurs milliards. Elle a préféré payer quelques centaines de millions sans passer par la case procès. D'ailleurs, actuellement, il y a UBS qui n'est pas passé par cette convention-là, où là, la justice a tapé fort, a demandé une amende à 3,7 milliards. Je pense que le juriste d'UBS a dû se faire taper sur les doigts, parce que s'il était passé par une convention judiciaire d'intérêt public comme HSBC, ça se serait mieux passé. Mais encore une fois, quel est le message que vous donnez aux citoyens quand vous avez cet instrument qui est la convention judiciaire d'intérêt public, que je comprends, ça permet de dépenser moins de sous, d'avoir vite fait, de récupérer de l'argent rapidement. Je comprends très bien, mais la personne qui est dans la rue, vous lui dites en gros, si vous commettez un délit de droit commun, vous volez quelque chose, et après vous arrivez, je vous fais prendre, parce que vous allez voler quelque chose, vous faites prendre, vous dites, ah mais en fait je vais le payer, ah bah vous le payez, donc c'est bon, vous avez plus de problème. Donc là, c'est un petit peu ça. C'est vous fraudez les impôts, vous faites prendre, vous passez un accord, vous dites, bah, en fait, je vais payer une partie avec une petite majoration et on n'en parle plus.
Vincent Drezet, sur cette question de l'arsenal législatif et des messages contradictoires qu'on peut envoyer.
Alors, deux choses déjà sur ce que vient de dire Vincent Piollet. C'est vrai qu'il faudra veiller à l'avenir à ce que, finalement, on renvoie pas le signe qu'il y ait trop d'arrangements par rapport à la somme qui est due. Et c'est une vraie question et ça rejoint aussi la question des moyens de la justice. Mmh. Je plaide évidemment pour le renforcement de l'administration fiscale, mais aussi dans la justice parce que, objectivement, ils n'ont pas le temps de tout traiter. Mmh. Il y a un autre domaine qui est intéressant aussi sur les évolutions législatives depuis notamment depuis l'affaire Cahuzac, mais ça a commencé, y compris en 2008, l'arsenal législatif du contrôle fiscal, c'est-à-dire les procédures pour rechercher les renseignements, les procédures de contrôle, ont évolué. M. Yannucci parlait également de la justice, il y a la création du parquet national financier, qui a plutôt été une très bonne chose pour le coup, parce que, y compris la Cour des comptes, fait des recommandations pour lui donner un peu plus de pouvoir. Il y a un arsenal législatif, alors on a essayé de dresser un bilan entre les mesures qui étaient vraiment intéressantes, sans rentrer dans le détail, mais pour aller à la recherche du renseignement, celle qui l'était un petit peu moins, un des derniers points qui fait l'actualité, c'est les aviseurs. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant.
On explique ce que c'est les aviseurs.
Ce sont des gens
qui
connaissent. Il faut surtout pas faire le parallèle avec la dénonciation. Ce sont des gens qui connaissent ces schémas de fraude, qui peuvent le prouver, nous apporter des éléments, et ensuite c'est retraité par l'administration fiscale de manière très professionnelle. Donc il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. D'ailleurs, c'est assez curieux ce qu'on entend souvent dans les services, c'est de dire si seulement on avait le temps et les moyens d'utiliser tout ce qui existe déjà. C'est une vraie question. Ensuite, il y a au plan international l'échange d'informations. Il y a sans doute des choses qui vont produire des résultats à l'avenir. Mais encore une fois, il y a une question de temps, il y a une question de moyens. Et puis, il y aura aussi des progrès à faire sur la déclaration pays, par exemple, sur tout un tas de choses qui touchent à la fiscalité internationale. Il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que la fraude n'a pas attendu. Ça fait 20 ou 30 ans qu'elle se développe.
Oui, on va parler de cette coopération. Peut-être un mot, parce que c'est très grand public, des nouveaux moyens. Je ne sais pas dans quelle mesure, vous allez nous le dire, les services fiscaux peuvent les utiliser Facebook, Twitter, Instagram, enfin les fameuses photos qu'on met de ses vacances aux Seychelles. On en est où? Parce que la CNIL a émis des réserves par rapport à ça. Est-ce qu'on peut utiliser ces informations, Frédéric Iannucci?
Alors, il y a une mesure qui est discutée tout à l'heure au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances, justement pour autoriser l'administration à utiliser les informations que les gens mettent eux-mêmes sur Internet, qu'ils rendent publiques, afin de détecter les activités occultes, les activités illicites ou les fausses domiciliations fiscales, les gens qui prétendent habiter à l'étranger pour ne pas payer d'impôts en France alors qu'ils sont en réalité en France. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait que ce sont des données qui sont publiques. On ne va pas chercher des informations dans des cercles restreints, des informations confidentielles. C'est beaucoup, beaucoup moins intrusif que ce que font les entreprises du numérique avec nos données personnelles. C'est mille fois moins intrusif.
Mais les services fiscaux peuvent les utiliser.
Et ben justement, le législateur est en train d'examiner un texte qui nous permet d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle, du data mining, pour exploiter une volumétrie de données très importante. Et c'est un sujet essentiel, parce que moi, tous les jours, je reçois des courriers de personnes qui se plaignent de concurrence déloyale. Ils disent, moi, je suis esthéticienne, je paye mes impôts, je paye mes charges, mais sur Internet, quelqu'un propose les mêmes services moins chers en échappant complètement au prélèvement obligatoire. Pareil pour les activités de déménagement, de peinture. Donc voilà, c'est un sujet qui est très sensible et je crois que les auditeurs voient bien ce que ça représente. Si vous êtes honnête, et la majorité des gens sont honnêtes, l'acteur économique qui ne respecte pas les règles menace votre activité à vous. Donc voilà, je crois que c'est essentiel, mais ça suppose, comme il y a une volumétrie de données très importante, qu'on puisse utiliser des nouvelles technologies et que ce n'est pas l'enquêteur qui, tout seul, va piocher des informations dans l'océan d'Internet.
Ça suppose de se former aussi peut-être à de nouveaux outils, Vincent Droset.
Oui, mais vous savez, les agents des finances publiques, ils se forment tous les ans, parce que tous les ans, il y a une loi de finances qui est votée avec des nouveaux instruments juridiques. Ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas avoir un temps de retard sur la fraude. Il y en a eu trop souvent, il y en a encore malheureusement, mais avec le numérique notamment, qui a profondément transformé à la fois les manières de travailler, mais aussi parfois les manières d'échapper à l'impôt, légalement, par l'optimisation ou illégalement, on ne peut pas se permettre, en tant qu'administration fiscale, objectivement, de se dire « bon, ben, on va laisser ça de côté ». Alors après, s'il y a le comment, il y a les libertés plus individuelles, ça, on est bien d'accord, mais si c'est un moyen pour certains d'exercer une activité illégale, alors c'est quelque chose qu'il faut aussi prévoir. Parce qu'il faut quand même ajouter que lorsqu'on combat la fraude fiscale, on dégage des ressources. On envoie aussi le signal aux citoyens que on essaie de rétablir un peu les choses en termes d'équité fiscale. Et ça régule aussi l'activité économique. Hein. On évite les distorsions de concurrence. C'est aussi, il y a des objectifs économiques derrière la lutte contre la fraude, au-delà des objectifs financiers et sociaux.
Vincent Piollet, sur ce point-là, peut-être un mot de cette bataille qui se joue en ce moment entre la France et les États-Unis sur la taxation des géants du numérique. On va écouter, tiens, Bruno Le Maire qui était sur France Inter lundi matin. Et qui évidemment répond aux États-Unis, qui voudraient tout renvoyer maintenant à l'OCDE.
Les États-Unis sont en train de faire machine arrière toute, et après avoir réclamé une solution internationale à l'OCDE, nous disant finalement une solution internationale à l'OCDE, on n'est pas sûr d'en vouloir, donc on va simplement se contenter d'imposer des sanctions sur la France qui a décidé une taxation nationale. Mon message va être clair, nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais cette volonté de taxer de manière juste les géants du numérique pour avoir une fiscalité du 21e siècle qui soit juste et qui taxe les activités digitales.
Vincent Piollet, il a raison le ministre de l'économie et des finances quand il dit ça?
En fait, si vous voulez enterrer quelque chose comme veulent faire les États-Unis, vous l'envoyez à l'OCDE. Je pense que c'est un des meilleurs moyens pour perdre tout le monde. Quand bien même il y a des gens de très bonne qualité, avec notamment le projet BEPS, qui est un projet actuel sur les références, sur le qu'est-ce qu'on va taxer, qu'est-ce qu'on taxe pas, où là on rentre dans des domaines techniques très profonds. Mais quand vous prenez l'exemple des GAFA, en fait, c'est vous taxez là où l'activité se passe. Donc, c'est-à-dire, vous devez savoir où est-ce que le chiffre d'affaires. On revient à ce que disait Monsieur Drozet avec le reporting pays par pays. C'est où est-ce que vous faites votre chiffre d'affaires, là où vous le faites. On vous taxe. Et non pas là où vous êtes enregistré, aux îles Vierges britanniques, etc. C'est pour ça que je voulais aussi rebondir sur ce qu'on peut lire avec l'utilisation des réseaux sociaux pour pouvoir traquer la fraude, etc. Là, je pense qu'on est quand même un petit peu dans le gadget. La vraie fraude fiscale, c'est quand même des grosses firmes multinationales ou des gens qui ont des moyens.
C'est des montages financiers.
C'est des montages financiers très complexes. Là, on est en train d'essayer de sortir le fantasme de la personne qui va toucher le SMIC et qui va se faire photographier avec une voiture de luxe ou sur un yacht, ce genre de choses. Enfin, là, on est complètement dans une espèce de fantasme qui a pas de sens. Là où il y aurait une meilleure utilisation, notamment du data mining, c'est d'aller pouvoir, notamment, voir les registres de domiciliation et les actions. Ce qu'on appelle les actionnaires ultimes de sociétés qui sont au Panama, qui sont aux îles Vierges britanniques. Mais ça nécessite des luttes de pouvoir entre les différents États, des rapports de force géopolitiques très importants.
Alors il est déjà 19h56. Alors j'aurais quand même vous donner quelques petites questions qui sont arrivées au standard et qui m'ont été retranscrites. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, on essaye de le faire assez vite. Quel impôt est le plus fraudé? Ça c'est Jacques sur franceinter.fr qui nous demande ça. Qui fraude le plus, particulier ou entreprise? Qui veut répondre?
Compte tenu des masses budgétaires, la TVA, c'est la moitié des ressources fiscales de l'État. Donc, par nature, c'est l'impôt le plus fraudé, potentiellement. Et après, c'est très difficile de faire une hiérarchie sur les taux de fraude. Ça dépend des secteurs d'activité économique, des tailles d'entreprise, des catégories de contribuables.
Voilà, une question de Nicole à Saint-Malo. C'est plutôt une remarque. Pas étonnant que le contrôle fiscal ne soit pas efficace. On a supprimé les services de contrôle fiscal de proximité. Exemple, à Saint-Malo, la fiscalité immobilière dans ce secteur riche a été supprimée et départementalisée avec une perte vertigineuse des résultats. Vincent Drozet.
Alors, je ne connais pas la situation de Saint-Malo, mais il est vrai que de toute façon, ce qu'on j'évoquais tout à l'heure, à partir du moment où on fragilise la direction générale des finances publiques, eh bien, on fragilise la lutte contre la fraude. Et après, ça se traduit nécessairement localement. Après, on pourrait rentrer dans le détail de restructuration, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. L'enseignement, en tout cas sur les effectifs, au risque de paraître un peu obsessionnel, demeure, puisque ce sont bien des hommes et des femmes qui programment le contrôle fiscal, qui le réalisent et qui ensuite procèdent au recouvrement.
Quand la Cour des comptes appelle à une mobilisation interministérielle, elle a raison ou pas, Vincent Drozet?
S'il y a une coopération intelligente, oui, mais en s'appuyant sur les technicités qui existent, parce que la douane, la DGFiP, Tracfin pour le blanchiment, exercent des métiers complémentaires, mais ce n'est pas le même métier. Donc il faudra bien organiser ça pour que chacun reste efficace dans son domaine.
Mais quand elle dit que l'impulsion interministérielle reste insuffisante, là-dessus, vous avez un devoir de réserve, monsieur Iannucci, vous n'allez pas forcément me répondre oui.
Non, mais elle signale également des réussites, il y a une task force TVA qui fonctionne bien. Dans le vocabulaire de la Cour des comptes, quand elle dit que c'est réussi, c'est quand même quelque chose dont on peut se féliciter.
Vincent Piollet.
Oui, non, c'est
sur cette volonté.
Non, la volonté de pouvoir, comme disait monsieur Drozet, c'est-à-dire déjà pouvoir avoir la possibilité d'utiliser tout ce qui existe. Il y a énormément de sources. Après, ça nécessite des moyens de pouvoir les analyser. Et il y a aussi plus de proximité, oui, entre l'administration, la justice. Il y a des progrès qui se font, mais on reste encore à des niveaux où on est toujours dans la course entre le malfrat et le policier. Il y en a un qui a toujours un coup d'avance avec une armée de cabinets d'avocats, de fiscalistes, de juristes, de domiciliation partout dans le monde. Et c'est difficile de le traquer avec une simple administration isolée dans son coin.
Encore deux petites questions, alors vraiment des réponses hyper rapides. La fameuse cellule de dégrisement, est-ce qu'elle a vraiment rapporté beaucoup d'argent ou pas, Frédéric Iannucci?
C'est une cellule de régularisation déclarations pour les comptes à l'étranger.
Ceux qui avaient planqué l'argent.
Donc, qui a fermé ses portes et qui a rapporté plusieurs milliards d'euros à la République.
Le prélèvement à la source, Vincent Drozet, est-ce que c'est quelque chose qui permet d'éviter certaines fraudes ou pas du tout?
Objectivement, c'est marginal parce que les contribuables étaient déjà avant identifiés. D'ailleurs, ils recevaient une déclaration pré-remplie. Donc, c'est un changement du mode de paiement de l'impôt, pas un instrument de lutte contre la fraude.
Voilà, alors maintenant, chacun en 5 ou 6 secondes, la priorité des priorités. Vous commencez, Frédéric Iannucci.
Nous, c'est lutter contre la fraude dans l'e-commerce, le commerce en ligne, qui est une zone de risque importante.
Vincent Piollet, 5 secondes.
Vous mettez un reporting par pays, ça donne une lisibilité sur toutes les entreprises là où elles devraient être taxées et surtout un contrôle citoyen sur ces chiffres.
C'est fini, Vincent Drezet, 3 secondes.
L'impulsion politique et les moyens qui vont avec.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir et merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous l'avez entendu, il est déjà 20h.